Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
12 postes.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste, midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mois. Moi, je vais te retourner en
nous parlons tous dans la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, avec moi,
les
citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio,
autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste,
la radio,
vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
En effet, vous êtes bien sur le 93.9 et nous commençons notre virée culturelle de 50 minutes. Tania Beaumont à mes côtés, Julia Chamaudon au micro, Bruno Bertrand derrière le petit bouton, c'est parti. Au menu de ce Tous au poste aujourd'hui, Vincent Pourageau sera aux côtés de Mahmoud Kamal pour aborder la conférence qui se tient à la Maison des Tiers-Mondes autour du partenariat franco-palestinien. En deuxième partie, Gilles Gouget nous donnera un avant-goût de Fiesta 7, ce fameux festival qui se déroule le 20 juillet. Bien sûr, nos bons plans et notre nouveauté de la semaine. Mais avant tout, un petit édito. Alors qu'hier, j'encensais les ondes d'un hymne à la nature et à l'été. Aujourd'hui, c'est un appel au massacre que je scande. Oui, au massacre, écoutez plutôt. Le massacre de nos institutions, oui monsieur, oui madame. Dans le cadre d'un partenariat engagé entre Divergence FM et Radio Tabalé, une radio malienne basée à Bamako, j'accueille prochainement le journaliste Issa qui viendra animer les ondes divergentes. Cependant, Issa est malien et sa venue se complique de jour en jour. Les institutions françaises nous demandent des papiers administratifs à fournir à la dernière minute. Depuis 8h30 ce matin, je passe de bureau en bureau entre préfecture et direction du travail pour expliquer la situation. Issa viendra, nous y arriverons. À la préfecture, il y a une file d'attente pour les étrangers et une autre pour les Français identifiés comme tels. À la préfecture, dans le bureau à côté de celui où je me présente, il y a une femme de l'administration qui crie à un homme debout en face d'elle. « Vous êtes en situation d'irrégularité. Allez directement vous présenter à la police. » Mais là, je vous le demande, que fait la police ?
Et dans les bons plans aujourd'hui, Julia, on commence avec une soirée au Baloir à 21h, tout en électropop de Chap, qui est un groupe anglais, groupe britannique, qui viendront nous visiter ici même à Montpellier. Ils nous présentent un nouvel album qui s'appelle Well Done Europe, qui est sorti le 24 mai dernier. Il y aura aussi en première partie W, qui est un groupe d'ici de Montpellier, qui est le projet de Frank Rabeyrolls. Lui aussi, nouvel album qui est sorti en mars 2010, Pineapple Dream. Il nous présentera le tout lors de cette soirée à 21h au Baloir sur le boulevard Louis-Blanc et l'entrée est de 10 euros.
Merci Tania. Donc oui, retour à nos bons plans après cet édito avec notamment de la musique ensoleillée, la musique traditionnelle du Burkina Faso avec le groupe Folie Ba. C'est à 21h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figreul et c'est gratuit.
Encore une fois, un groupe britannique qui nous visite aujourd'hui, OK Pilot, cette fois-ci un groupe qui fait du post-punk roll.
Wow.
C'est dans le cadre de la tournée Nerves in Europe qu'ils s'arrêteront ce soir à 20h30 au bar Up and Downs. Et en plus, l'entrée est libre.
On passe du post-punk rock'n'roll au festival de musique, un ensemble vocal dirigé par Jean-Louis Comoretto, Sei Voci. Ils interpréteront la musique vocale au temps du bon roi Henri, nous dit-on, dans le cadre du 4e centenaire de l'assassinat d'Henri IV. Ça se passe à 21h à la cathédrale de Maglone. Vous la rejoindrez par Palavas. Il vous en coûtera entre 25 et 30 euros.
Un petit mot sur la danse contemporaine. Ce soir, c'est le gala de l'école Espadance qui est dirigé par Anne-Marie Porras. C'est à 20h30 au Zénith.
Et puis c'est bon. Bouge plus. Cette pièce de Philippe Dorin se compose d'une série de scènes toutes plus absurdes les unes que les autres. C'est l'histoire bouge plus d'une famille classique, légèrement bobo, qui ne sait plus très bien qui elle est, ni qui est qui. Une comédie mise en scène par Valérie Gasse et interprétée par des comédiens issus du Conservatoire de Montpellier. À voir à 19h30 au théâtre La Vista, 42 rue Adam de Craponne. Il vous en coûtera entre 5 et 10 euros.
Notre bon plan théâtre, l'hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains. C'est une pièce de Philippe Dorin qui est interprétée par les élèves du Collège Les Escoliers de La Mosson. C'est dirigé par le comédien Marc Paston et c'est dans le cadre de la Cour des Arts. C'est à 19h au théâtre Jean Villard qui est au 155 rue de Bologne. L'entrée est libre encore une fois.
Allez, on quitte les fabuleux textes de Philippe Dorin pour endosser ceux de la route Zigane. Le printemps des comédiens aujourd'hui ouvre ses portes à 18h au Mico Coulier avec le spectacle imaginé par Daniel Bedos, La route Zigane. C'est à 18h et ce sera suivi d'un café de la diversité en compagnie d'Amadou Ampateba. Autour du sujet Amadou Ampateba, ce fameux poète de la culture peul, avec Ursula Baumgart, chercheur au CNRS, Jean Valera qui est comédien, Constant Ouedraigo qui est musicien et Asia Ta Abdou qui est danseuse. Voilà, j'y arrive. C'est à 20h30 dans la Pinède et l'entrée est à 7 euros. Ce sera suivi à 20h30 d'ici provisoirement là. Un spectacle par le Centre des Arts du Cirque Balthazar à 20h30 à l'espace Sud. Et puis on finira cette soirée avec Rien dans les poches. Un spectacle du Cirque Romanès à 22h à l'espace Chapiteau. Le prix des places échelonne entre 11 et 24 euros. C'est au domaine d'eau, rue de la Carrieras, route de Gravel.
Cette fois-ci, une conférence sur le thème sexothérapie et hypnothérapie, une solution. C'est par Carole Rubineau, psychologue, clinicienne et sexologue. Et aussi, on retrouve dans cette conférence Anna Boutillier, qui est hypnothérapeute. Il y a deux représentations de cette conférence, à 14h et aussi à 20h45. C'est au centre de yoga Iyengar. On doit réserver au 06 75 64 34 54. L'entrée est de 5 euros.
Allez, on termine sur un café philo sur le thème « La théorie du complot ». Pourquoi pas, hein ? C'est à 20h30 à la Brasserie du Dôme de Avenue Georges Clémenceau et l'entrée est libre. On passe à la nouveauté de la semaine.
Say hey, baby, some other deal, some other time.
écoutait Some of the Day, Some of the Time de l'album À la recherche d'un son perdu. Bien sûr, c'était le Jim Murple Memorial. Et tout de suite, on passe eh bien, à la deuxième partie de ce Tous au poste en compagnie de Vincent Pourageau.
Tous au poste, interview.
Donc la première partie de ce Tous au poste concerne la Palestine et plus principalement les relations entre la France et la Palestine, et je dirais encore plus localement Bajes et Jalboun qui se trouvent en Cisjordanie à l'occasion d'une conférence qui sera donc tenue à la maison du tiers-monde, c'est ce jeudi entre 19h et 22h, donc ce jeudi 10 juin. Et pour en parler, eh bien, je reçois Kamal Mahmoud, bonjour.
Bonjour.
Alors je vais vous demander de vous présenter, vous êtes agronome de formation, mais ce n'est pas en cette qualité hein, que vous êtes invité. Alors ben, vous êtes...
Je suis d'origine palestinienne de la Cisjordanie et j'étais président de l'association des Palestiniens en France. Et actuellement, je suis secrétaire de comité de jumelage coopération Montpellier-Palestine, un comité qui a été créé en 2009 suite aux événements de Gaza, suite à l'agression israélienne contre Gaza en fin de 2008, début 2009. Et nous avons eu l'idée donc de créer une coopération entre la Montpellier et la Palestine, avec soit des collectivités locales, soit avec des villes palestiniennes dans des domaines qui sont propres à chaque ville ou à chaque collectivité, comme le domaine universitaire, le domaine agricole, le domaine sportif ou le domaine médical.
Alors vous êtes aperçu finalement qu'il y avait déjà eu des échanges mis en place, c'était le cas donc depuis 2002 entre la commune de Bajes qui se situe donc tout près de Narbonne et puis Jalboun en Cisjordanie. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait déjà des choses mises en place donc depuis quand même un certain nombre d'années.
Exactement. En fait, il y a des comités de jumelage déjà entre les collectivités territoriales françaises et palestiniennes, que ce soit avec la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Mais nous avons plusieurs fois essayé d'entamer un début de jumelage ou de coopération entre Montpellier et la Palestine, différentes villes, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Et c'est dans un cadre aussi de coopération que nous avons créé une association de coopération, en fait, de solidarité rurale entre Montpellier et la Palestine, qui regroupe des agronomes à la retraite ou des agronomes, ingénieurs agronomes en activité à Montpellier. Ceci dans un esprit d'échange avec les Palestiniens, puisqu'il y avait déjà pas mal de coopération et d'échanges avec des ingénieurs agronomes palestiniens qui sont venus se former à Montpellier, que ce soit au CIRAD, au CNIARC, ce qui était le CNIARC avant, ou à l'Institut agronomique méditerranéen. Et d'autant plus qu'il y a aussi, dans le domaine médical, pas mal de médecins palestiniens qui sont venus se former en France, dans différentes villes, que ce soit à Montpellier, ou à Grenoble, ou à Paris, ou dans d'autres villes. Donc les échanges existent. Et nous avions essayé, quand j'étais président de l'Association des Palestiniens en France, d'augmenter ce degré de coopération pour faire profiter les Palestiniens des possibilités d'échange avec la France dans tous les domaines possibles.
Alors, pourquoi la Cisjordanie ? On peut le rappeler quand même. Hein. Pourquoi choisir la Cisjordanie plutôt que Gaza, hein, qui faisait l'actualité dernièrement avec les
Israéliens ? Oui, mais nous, on a voulu d'abord choisir Gaza pour dire la vérité, parce que notre souci, c'était pendant l'agression israélienne contre Gaza, c'était aider la population de Gaza à sortir de cette situation horrible dans laquelle elle était plongée par l'agression israélienne. Mais malheureusement, la mairie de Montpellier, qui a bien voulu accorder de l'aide à Gaza, puisqu'elle a envoyé 25 000 euros d'aide à Gaza l'année dernière, mais la mairie n'a pas voulu, a préféré plutôt une coopération, un rapprochement en coopération avec une ville en Cisjordanie, parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait une coopération politique avec la bande de Gaza, ou le Hamas, comme disait Madame le maire. Donc le souci, c'était qu'on fasse, nous, de la coopération avec les villes qui acceptent cette coopération, mais aussi il fallait que la ville de Montpellier soit d'accord, naturellement. D'où donc le choix d'une ville en Cisjordanie, après moult essais d'insister insisté sur Gaza. Et comme ça n'a pas marché, nous avons dit, OK, on choisit une ville en Cisjordanie. Et le choix de Madame le maire était entre soit Nablus ou Ramallah. Puis après, on a constaté que ces villes sont déjà jumelées avec des villes françaises. On a opté donc pour soit Hébron, Tourkarem ou Jénine. Et le choix, c'était sur Tourkarem, vu l'approchement, les possibilités d'échange futures aussi et la taille des villes.
Alors, bien, on peut peut-être vous demander quand même, hein, suite aux événements et même, enfin, vous rappeliez les affrontements contre la bande de Gaza qui vous ont donné envie de faire ce rapprochement. Quand on est d'origine palestinienne, qu'est-ce qu'on ressent ?
Ben, vous savez, on est frustré quand on constate que le mouvement de liberté, la flottille de liberté qui a rassemblé des centaines de militants de par le monde et qui a fait un geste remarquable de courage pour aller affronter le blocus israélien contre Gaza qui est sous blocus depuis maintenant 4 ans. Et c'est une forme de punition collective contre la population de Gaza, chose qui est insupportable puisque les Gazaouis sont privés des choses essentielles dans leur vie, notamment pour la reconstruction de Gaza. Et puis pour les soins médicaux, le matériel médical, les produits alimentaires. Quand on voit les listes des produits qu'Israël interdit, c'est hallucinant. Il y a des choses qu'on ne comprend pas.
Parfois, ça peut être très arbitraire. Hein.
Ah, c'est tout à fait arbitraire. Donc, actuellement, il y avait des manifestations partout en France et dans le monde contre ce qui a été l'agression israélienne contre le bateau de la flottille de Liberté, chose que nous condamnons très, très fortement, puisque non seulement c'était contre des gens qui sont venus aider à titre humanitaire, mais pas pour agresser qui que ce soit. C'était un droit, et puis c'était dans les zones internationales qu'elles ont été interceptées.
Parlez-nous de la conférence de ce jeudi.
Nous sommes
à la Maison du Tiers-Monde.
Oui, merci. Nous étions inspirés par cette expérience remarquable de Bage, un petit village de l'Aude, près de Narbonne, et Jalboun, qui est un petit village à côté de Jénine, en Cisjordanie. Les deux villages sont convenus, il y a 7-8 ans, d'entamer un rapprochement, parce qu'il y avait des Palestiniens à Toulouse qui étaient en contact avec Bage, et puis ils ont proposé l'idée d'effectuer un jumelage, et ce jumelage a réussi quand même ils ont réussi à le faire voir le jour en mettant beaucoup de bonne volonté de la part des responsables de Bage, ce qui a permis quand même de consolider des contacts et des projets de voyage à Jalboun, en Cisjordanie. Et le sous-comité de jumelage de Bage a réussi à envoyer à plusieurs fois soit des formateurs pour enseigner sur le français, soit des hydrogéologues pour s'occuper des questions de l'eau et aider à construire des citernes ou surtout à recueillir les eaux de pluie pour les mettre dans des citernes sur des bassins versants. Et aussi, il y avait des possibilités sur le plan sanitaire d'aider les familles à s'offrir des moyens, des soins adéquats pour leurs enfants, pour les femmes qui donnent naissance à des bébés aussi. Et il y a aussi, dans le domaine de l'élevage, des facilités. Mais chose remarquable aussi, c'est ce comité de Bage a réussi à faire un peu de théâtre à Jalboun. Ils ont formé des jeunes à faire du théâtre. Ils ont envoyé des humoristes. C'est une équipe formidable qui a réussi quand même à se déplacer malgré les difficultés de passage en Cisjordanie pour des militants français ou européens qui annoncent qu'ils vont en Palestine et qu'ils vont aller chez les aider les Palestiniens. Et souvent, les autorités israéliennes mettent des barrages sur leur chemin. Et les barrages existent, en tout cas. Il y a plus de 530 barrages maintenant en Cisjordanie qui rendent la vie et la circulation extrêmement pénible pour les gens en général, pour les Palestiniens en particulier, mais pour même les touristes qui viennent à titre de visite. Eh bien, ce comité de Bage a fait un geste louable puisqu'il a affronté, ils ont affronté avec ses membres toutes les difficultés et ils sont bénévoles et ils reçoivent, Il y a un échange aussi, donc ils reçoivent des jeunes de villages de Jalboun. Ils reçoivent, j'étais il y a 2 ans, on nous a invités à assister au séjour d'une quinzaine d'enfants reçus de Jalboun. Et ces enfants, qui n'ont jamais quitté la Cisjordanie, naturellement, il faut s'attendre à leur émerveillement quand ils sont en France, à l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu dans les familles d'accueil, parce qu'ils étaient reçus chacun dans une famille. Et puis, ce contact, ils commençaient à apprendre le français à peine, mais ils ont réussi à améliorer leur français pendant les quelques semaines qu'ils ont passées à Jalboun, à Bajj. Et l'envoi d'un groupe de théâtre à Jalboun a ouvert l'esprit des jeunes sur des possibilités, c'est des dons cachés qu'ils avaient et qu'ils ne pouvaient pas voir le jour que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient les réveiller, qui est formé et intéressé. Naturellement, comme tout enfant, les enfants sont curieux, ils sont motivés pour apprendre. Et malgré un voyage pénible à travers la Jordanie, parce qu'il fallait passer de Jalboun via la frontière jordanienne, c'est-à-dire passer sur le Jourdain, avec des heures d'attente dans les bus, surtout quand il fait chaud, dans la vallée du Jourdain, il fait 45-47 degrés, hein, en sec, très sec.
En été, donc.
En été, oui, en été. Donc, mais ils avaient affronté tout ça, et puis de la Jordanie, ils venaient en France. Et c'est une expérience remarquable, et puis elle est continue. Il continue parce que Bajj continue à recevoir des jeunes de Jalboun et les amène dans des villes autour de Narbonne. Ils vont se présenter dans des écoles à Toulouse ou à Narbonne pour faire un échange avec des enfants, pour qu'on les voit, pour qu'ils voient aussi des enfants de leur âge. Et l'amélioration de leur connaissance du français aidant, donc c'est tourné. Leur donne beaucoup d'ambition pour avoir plus et essayer d'échanger et comprendre plus. Donc, nous, ici à Montpellier, nous nous sommes dit que ce serait intéressant d'inviter le président de Bajj, du comité de Bajj, Jean Costadeau, et son épouse Sylvie Mantel, qui sont à l'origine de cette activité, pour venir parler aux citoyens à Montpellier de la réussite. Et d'abord de la procédure qu'ils ont suivie pour réussir ce jumelage, mais surtout des résultats positifs qu'ils ont accomplis pendant ces quelques années. Et c'est à ce titre d'ailleurs, une fois qu'ils ont montré qu'ils sont capables de réussir des projets, qu'ils reçoivent l'aide du département, du conseil général de l'Aude, et puis de la mairie, et d'autres mairies dans l'Aude aussi.
Donc on va faire une petite pause musicale, parce que vous nous avez amené un petit morceau de musique.
Palestinien.
Alors voilà, je vous laisse le présenter, il s'agit de quoi?
Alors c'est de la musique... C'est de la musique palestinienne folklorique populaire, je dirais, et qui se joue notamment dans le partie nord de la Palestine. Et c'est joué par deux musiciens, un chanteur et un musicien, dont je connaissais le père de l'un, que j'ai rencontré il y a quelques années à Stockholm lors de réunions des Palestiniens d'Europe. Et c'est joué surtout pendant les mariages. C'est de la musique qu'on joue. Et pendant des jours et des jours, c'est donc assez variable.
J'imagine plutôt festif, donc.
C'est festif, voilà. Exactement.
Ah bien, on écoute. Alors Kamel Mahmoud, on rappelle aux auditeurs qu'on on est en train de parler de cette conférence ou de cette présentation du jumelage entre Bajj et Jalboun, voilà, en Cisjordanie, qui aura lieu donc jeudi à la Maison du Tiers-Monde entre, à partir de 19h et jusqu'à 22h, hein, selon les débats, parce qu'il y aura forcément des questions ensuite. Alors, qui avons-nous au téléphone? Est-ce Anne Mignard?
Tout à fait, c'est Anne Mignard.
Formidable. Donc, Anne Mignard, alors je vais permettre de tutoyer puisqu'on se connaît très bien dans la vie. Donc, tu es journaliste, tu es aussi directrice d'une radio associative qui s'appelle Bram FM Matul. Oui. Et il se trouve que tu reviens donc des territoires palestiniens. Tu es arrivée, je crois, il y a une semaine, hein, c'est ça?
Tout à fait, je suis rentrée en fait le matin où la flottille a été attaquée sur les eaux internationales.
Alors, eh bien, voilà, je tenais à t'avoir, nous, parce qu'on parle ici sur l'antenne de Divergence FM, d'un jumelage entre une petite commune française et la Palestine. Et je me suis dit, eh bien, ce serait peut-être bien de demander finalement comment ça se passe là-bas en Palestine. Ça faisait la troisième fois hein, que tu y allais, donc tu as forcément un sentiment plutôt récent sur ce qui se passe là-bas.
Oui, enfin, d'autant plus que les deux premières fois où j'y suis allée, c'était il y a 5 ans, en fait. C'était lors de l'élection présidentielle de Mahmoud Abbas, et donc j'étais pas revenue pendant 5 ans, j'y suis allée donc la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, et je dois dire que j'ai été assez surprise. Alors, il y a le mur, bien sûr, on en entend parler depuis X années maintenant, avec la hauteur, avec tous les inconvénients que ça peut avoir pour la population palestinienne, tant au point de vue du quotidien que du commerce, du développement économique. Mais ensuite, une chose, moi, m'a frappée, c'est que derrière ce mur côté palestinien, il y avait quand même une économie qui se développait. Il y avait énormément de constructions sur Ramallah, la ville centrale, la capitale. On ne peut pas parler vraiment de capitale parce que c'est pas vraiment un État. Mais voilà, après, dans le quotidien des gens aussi, ça se voit. Il y a beaucoup plus de voitures. Il y a 5 ans, on n'imaginait pas des embouteillages à Ramallah. Aujourd'hui, c'est le cas. Les routes sont en bon état. Enfin, c'est des gens qui sont privés de liberté, qui sont dans une prison, mais qui vivent et qui ne sont pas dans la misère. C'est pas la peine d'imaginer des tentes dans un désert. C'est loin d'être ça. Il y a plein de magasins à Ramallah qui pourraient être aujourd'hui en France ou dans n'importe quel pays développé.
Donc ça, on sent qu'économiquement, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourtant, je crois qu'il y a quand même un chômage persistant, non ?
Oui, il y a un chômage persistant. Alors, j'ai jamais pu avoir vraiment précisément les taux de chômage parce que les informations que j'ai eues, alors d'une part, le ministère de l'Emploi n'était pas évident à choper, mais en plus, ça tournait à peu près, on m'a dit, de 20 à 60%. Donc, c'était vraiment très variable.
Oui.
Y a beaucoup de petits boulots que les gens font. Après, il y a beaucoup d'argent étranger qui rentre en Palestine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG. Pardon ?
De la diaspora, peut-être ?
Il y a beaucoup de la diaspora, mais aussi de l'ONU. Enfin, vous vous promenez dans les rues de Ramallah, vous voyez passer des voitures de l'ONU. Enfin, voilà. Il y a quand même une mobilisation. S'il n'y a pas une mobilisation politique dans le sens où ces populations vivent dans une prison, il y a quand même une mobilisation d'aide alimentaire et d'aide économique qui est quand même assez forte, moi j'ai trouvé. Encore une fois, c'est que du ressenti à me promener, puisque moi j'y suis allée là-bas pour travailler sur des angles bien particuliers, c'était la condition féminine, donc voilà.
Alors, notre invité, Kamel Mahmoud, me demande dans quelle région, finalement, tu étais. Donc, c'était Ramallah et tu as fait d'autres villes ?
Alors, moi, j'ai fait Ramallah. Je logeais, en fait, chez des amis qui étaient juste à côté de Ramallah, dans un petit village. Et j'ai fait Bethléem. C'est quand même des très grosses villes. Hein. C'est les plus grosses villes, enfin, pas Bethléem, mais Ramallah surtout. Il faut savoir qu'il y a une grande différence au niveau du quotidien entre qu'on peut appeler les villages là-bas et les grosses villes, même si effectivement les kilomètres ne sont pas énormes. L'écart économique entre les villages et les villes est assez important. Et on assiste en plus à un phénomène, comme on a pu connaître au milieu du XXe siècle en France, d'exode du rural, c'est-à-dire que de plus en plus de gens quittent les villages et vont s'installer à Ramallah ou à Jénine ou à Bethléem pour pouvoir en fait avoir une vie meilleure.
Alors, quand tu engages la conversation avec, donc tu as des amis hein, là-bas, mais après, pas forcément tes amis, mais les gens que tu interviews, parce que tu y allais dans un contexte professionnel, donc pour amener des reportages, qu'est-ce qu'ils te disent ? Quels sont leurs premiers mots quand tu leur demandes, par exemple, des choses sur leur situation ?
Moi, la première question, systématiquement, quand ils voient mon micro, ils me disaient « Vous êtes là pour le mur ?» Je disais non, voilà. Après, sur leur situation, les premiers mots, c'est « On vit dans une prison ». Le premier exemple, c'est Gaza, même s'ils n'y sont pas, même si de toute façon, personne n'a droit d'y rentrer. Donc voilà, voilà. Donc cette espèce d'oppression, elle est quand même réelle. Après, moi, c'est vrai que dans le quotidien, par exemple, en me promenant dans le village où j'étais, qui est quand même un gros village, il y a plus de 3000 habitants, il y a 5 ans, il faut savoir qu'en Palestine, le problème de l'eau est inhérent, et ça enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, il y a 5 ans, il y avait des patrouilles israéliennes qui stationnaient nuit et jour sur le château d'eau du village. Donc, c'est-à-dire que ils intervenaient régulièrement, notamment quand il y avait une fête, ils débarquaient pendant un mariage, ils faisaient rentrer tout le monde chez eux. Aujourd'hui, ces gens-là n'y sont pas. Donc, il y a toujours, si vous voulez, l'emprise d'Israël, l'ennui dans le quotidien, mais c'est pas du tout la même pression. Les enfants, par exemple, dans le village, vont à l'école sans croiser un soldat israélien, sans voir une arme. Mmh. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'important.
Voilà, c'est quelque chose qui a changé donc ces dernières années entre la dernière fois, donc c'était il y a 5 ans, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, bah, peut-être que vous avez une question à poser, Kamal.
Oui, j'aimerais bien savoir si vous aviez pu quand même vous rendre compte des difficultés de déplacement pour la population palestinienne des villages vers les grandes villes. Et si vous n'aviez pas été malheureusement ni à Hébron ni à Nablus par la route pour voir comment ça se passe pour les Palestiniens.
Exactement. Alors moi j'ai effectivement stationné à Ramallah et à Bethléem, qui sont effectivement des accès qui sont autour de la ville, si vous voulez. Et dans la ville, c'est très facile. Par exemple, mais il faut savoir que pour se rendre à Ramallah, de Ramallah à Bethléem, si vous regardez une carte, donc il y a Jérusalem au milieu. Oui. Moi, qui suis étrangère, si j'avais voulu faire, puisque je peux passer n'importe quel checkpoint à part Gaza, j'aurais pu faire un trajet qui m'aurait pris moins de 2 heures, puisque Bethléem, Ramallah, ce n'est pas très loin. Pour les Palestiniens, le trajet que j'ai pris, ils ont mis 3 à 4 fois plus de temps parce qu'il faut qu'ils contournent tout le mur. Donc je veux dire, ils multiplient les transports en permanence. Dès qu'il y a une colonie sur la distance que vous voulez parcourir, il faut contourner. Donc ça, c'est des difficultés. Et je vous parle même pas du commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez vendre quelque chose, il va y avoir effectivement tout le trajet pour y arriver. Et en plus, il peut y avoir aussi des contrôles inopinés, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de la route et puis tout d'un coup, hop, les soldats israéliens sont là et ils disent « on passe pas ». Donc voilà.
Ce qui rend donc la commercialisation des produits agricoles très aléatoire. Comme il y a des produits périssables, ils peuvent pourrir sur la route en attendant.
Complètement. Moi, alors cette fois-ci, ça s'est pas vu, mais moi j'ai assisté à... On m'a raconté des scènes, puisque les gens avec qui je suis en contact là-bas travaillent sur une ONG qui fait de la santé, en fait, qui va dans les villages, qui a des ambulances, qui va faire de la prévention, mais qui aussi a des ambulances. Il y avait des ambulances, il y avait des gens qui mouraient, notamment des femmes qui étaient enceintes, parce qu'il y avait un checkpoint et que l'ambulance ne pouvait pas passer. Et qu'elles mouraient en couche dans l'ambulance. On m'a raconté des cas comme ça. Alors, je les ai pas vus de mes propres yeux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce poids-là, il est moins important. Après, j'y ai été une semaine, je ne peux pas dire que c'est... Et j'ai été à Ramallah dans une grande ville. Je ne peux vraiment pas dire que c'est la majorité sur le territoire de la Cisjordanie.
C'est déjà pas mal, oui.
Alors là, on parle effectivement de tous ces problèmes, même si tu as senti qu'il y a eu une amélioration, hein, notamment économique et visiblement sociale pour et l'éducation des enfants. Quels sont, si on parle d'espoir, est-ce qu'ils ont un espoir quand même, quelque chose
auquel
ils se raccrochent?
Les gens que j'ai rencontrés là-bas sont... Autant il y a 5 ans, alors j'étais dans un cadre particulier puisque c'était une élection présidentielle. Il faut savoir que là-bas, la politisation, comme souvent dans des pays où il y a du conflit, elle était importante, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec des gens qui sont eux engagés, me disent les gens, d'une part, se tournent beaucoup vers la religion parce qu'ils n'ont plus d'espoir et parce que ils souhaitent atteindre le paradis, donc du coup ils s'enferment dans les mosquées et ils attendent de ça. Et d'un autre côté, le seul espoir qu'ils ont, c'est moi je vais m'en sortir économiquement, je vais m'acheter un super appart et je vais m'en sortir moi, beaucoup plus individualiste. Après, de l'espoir, moi je me dis, si le pays se développe et s'il y a encore des gens pour faire des manifestations, pour faire vivre des ONG, pour faire vivre des partis politiques, c'est que l'espoir, il existe toujours.
Alors là, on parlait d'un échange entre une commune française et une ville là-bas en Palestine. Est-ce que quel regard finalement ils ont sur la France ?
Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que moi, comme j'y allais en fait pour faire des reportages sur la condition féminine, la plupart des gens m'ont regardé, ils m'ont dit mais quel est le problème des Français avec le voile ? Puisqu'en plus, c'était juste après l'événement, enfin les mesures sur la burqa et les discussions au Parlement.
Ah oui.
Donc moi, j'avoue que c'était assez cocasse, puisque je partais de France, on me disait « Ah, les Palestiniens, les Arabes, le voile !» Et j'arrivais en Palestine, on me disait « Ah, les Français, le voile !» C'était vraiment le sujet, voilà. Après, autant il y a 5 ans, on avait un président de la République qui était très apprécié, autant aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et même certains ne savent même pas comment ils s'appellent, parce que les Français sont rangés dans la catégorie, ok, c'est la patrie des droits de l'homme, mais là, c'est surtout les amis des États-Unis.
Eh oui, parce que Jacques Chirac, non seulement avait été célèbre parce qu'il avait fait son scandale « What do you want me to go back to my plane and go back to France hein, ?» C'était dans les rues de Jérusalem. Mm-hmm. Donc ça, c'était il y a je ne sais plus combien de temps.
Ça doit être il y a 6 ans, je pense.
Moi, je pense que c'est même plus vieux. Et puis après, il s'est opposé quand même à la guerre, à l'intervention des troupes françaises en Irak. Et ça, je pense que ça a eu un poids. Il continuait à en parler de Jacques Chirac est un héros, là-bas.
Non, il est oublié. Autant il y a 5 ans, on en parlait, autant aujourd'hui, on en parle plus. Mais quand je dis, on m'a dit, mais c'est qui votre président ? Voilà, j'ai dit, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pas le même que Jacques Chirac. Et là, on m'a regardé, on m'a dit, ah non, ça c'est sûr, c'est pas le même. Voilà.
Alors, est-ce que tu as vu, des artistes ? Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a une émulation ?
Je suis pas restée assez de temps pour pouvoir voir ça. La seule chose que j'ai vue, c'est que comme on prend, la télé est omniprésente, d'autant plus que dans un territoire où les gens ont du mal à se déplacer, c'est quand même les médias ont quand même beaucoup de poids. La télévision, la radio est très très présente. Il y a beaucoup de radios et de télévisions locales, donc ça c'est assez étonnant aussi parce qu'effectivement en termes de, nous qui sommes journalistes, en termes de matériel, on sait combien une radio et surtout une télé, combien ça coûte, et ben là-bas, il y en a. Après, il y a aussi un problème qui s'appelle la censure, donc du coup, ils ont peut-être les moyens de s'acheter des caméras, mais après, comment on peut ils l'exploitent. Donc voilà, c'est un pays qui est enfermé, et donc qui a envie de communiquer. Donc quand vous êtes un étranger, par exemple, et que vous arrivez dans ce pays-là, tout est facile pour vous. Tout le monde vous aide, tout est facile. Voilà.
Et tu as eu des soucis avec les autorités israéliennes. Alors moi, je sais qu'on a chatté un moment sur Internet et tu me demandais comment héberger tes fichiers pour qu'ils passent par la toile, les stocker sur Internet pour éviter de te les faire prendre à n'importe quel checkpoint ou frontière. Alors.
Voilà. Alors, la chose la plus dure à vivre pour des Palestiniens, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire qu'à un checkpoint, il va avoir un soldat israélien en face de lui qui va dire « toi, tu passes pas ». Il ne saura pas forcément pourquoi. Moi, j'ai été à un très, très petit niveau dans la même position, c'est-à-dire qu'à l'aéroport, quand vous arrivez en Israël, on vous pose des questions. Et quand vous en repartez, alors là, on vous en pose encore plus. Moi, j'avais une carte de presse, j'avais mes reportages, mais je me suis dit, comme c'est la loi de l'arbitraire et que c'est quand même un pays qui est en guerre, on ne sait jamais. Et il y a eu un moment, en fait, parce que ils ont su, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit que j'étais dans les territoires et que j'avais fait des reportages, et voilà. Bon, je leur ai pas dit que j'étais chez des amis, parce qu'après, les questions sont beaucoup plus dangereuses, mais bon, voilà. J'ai eu une fouille, pas intégrale, mais pas loin, ou à laquelle je m'étais préparée, mais par contre, ils ont pas fouillé, ils ont pas regardé dans mon appareil photo, mais par contre, l'enregistreur où il y avait mes reportages, la manière dont la jeune fille le traitait pour pouvoir le passer dans son engin, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas eu de bombe à l'intérieur, je me disais, j'ai bien fait de le sauvegarder dans une clé aussi, de le sauvegarder sur mon ordinateur, parce que voilà. Mais ça aurait très bien pu, je n'en sais rien, j'aurais pu passer comme une lettre à la poste, comme ils auraient pu carrément me prendre l'enregistreur et tout mon matériel. C'est la loi de l'arbitraire.
Voilà, mais on a l'impression que c'est anecdotique ce que tu racontes, mais pas du tout, parce qu'effectivement, tu le dis, c'est arbitraire, donc ils auraient pu très bien confisquer pour une raison ou pour une autre.
Tout à fait. Par exemple, la famille chez qui j'étais, Ils ont voulu aller à Jérusalem à l'ambassade des États-Unis. Eh ben, les enfants, la femme a eu l'autorisation, le mari, non. Et ils ne savaient pas pourquoi.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour ce petit rapport hein, suite à ton passage donc, en Palestine. Alors, je ne sais pas si on peut indiquer quand est-ce qu'on pourra écouter tes reportages. Ce sera sur le MOVE, hein, sur l'antenne du MOVE.
Oui, alors il y a déjà un reportage qui est passé et un autre qui devrait passer cette semaine, mais je ne sais pas quand.
Et y a-t-il des podcasts
Non, il n'y a pas de podcast. Radio France, ils sont...
Non,
très, très
non, aucun mot sur Radio France.
Ce sont nos amis. Pas très, très
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Voilà, Kamel Mahmoud. Donc, on a parlé de la Palestine un peu plus d'ailleurs que ce qu'on aurait dû faire. Donc, on le rappelle, il y aura cette conférence à la Maison du Tiers-Monde. Ce sera à 19h, donc jusqu'à 22h et jusqu'à la fin des débats pour présenter cet échange entre la ville de Bage et de Jalboun avec Jean Custado, hein, qui viendra présenter ce jumelage qui a débuté en 2002 entre ces deux villes. Jean Custado, qu'on n'a pas pu avoir par téléphone, on est désolé, ça c'est les voies impénétrables des circuits électroniques et des centraux téléphoniques. Alors on va se quitter.
Ça sera donc le jeudi.
Le jeudi.
10 juin à 19h.
Donc, l'adresse, c'est pas boulevard Louis Blanc, c'est...
C'est la maison, c'est l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc.
Si, c'est Louis Blanc.
Qui est la maison du Tiers-Monde.
Voilà, parce que nous, on est boulevard Pasteur, c'est dans le prolongement et je sais jamais quand il s'arrête. On va se quitter avec un groupe de rap, c'est Dame...
Palestinien, c'est ça?
Oui, un groupe de rap palestinien. C'est le premier groupe de rap palestinien. Alors, chacun des trois membres du groupe est né et a grandi dans la ville ghetto de Lod, une ville mixte avec des habitants arabes et juifs et qui se trouve à 20 km donc, de Jérusalem. Dam signifie éternité en arabe, vous confirmez ? Et sans en hébreu et sert d'acronyme à Da Arabian MCs en anglais. On écoute.
مش عارف اش بيصير يا دوب فتحت عينك دمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد قالك تكره قوله لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهابي انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة عالعربي المسكين بتكاشى المساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت احكي اللي بحساسك تسحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت وقف عالجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا طريقة توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف اشهاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلأ عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لونها مش قبالنا
Ainsi se referme ce Tous au Poste un peu perturbé. Alors j'ai du coup oublié de donner l'adresse internet du jumelage dont on a parlé en première partie. C'est http jalboun-bage avec un s.overblog-blog.com. Mais normalement, vous devriez retrouver ça sur le www.divergence-fm.org à la rubrique Tous au poste. Et c'est aussi sur le site internet de Divergence que vous trouverez le programme de la journée dont je vous ferai l'économie. On se retrouve demain pour Tous au poste avec des interviews. Ce sera à midi 10 avec une rediff à 17h. Au revoir.